On doit chanter parce que c'est pas passé le...
Vous écoutez la radio francophone d'Auckland, Amuse-Gueule.
Bon, ben voilà, j'espère qu'on était bien à l'antenne parce que on a eu un vrai faux démarrage. Bonsoir, bonsoir, c'est David à l'appareil. Amuse-Gueule, l'émission des francophones et des francophiles sur Auckland 104.6 FM, Planète FM, en très bonne compagnie. Merci, Else, de retourner, de revenir.
Oui, ça me
faisait un petit longtemps.
Ouais.
Et puis, Olivier, un invité de marque. Bonsoir, Olivier.
Bonsoir.
Et c'est ta première fois, hein, c'est ça?
Tout à fait.
Tout à fait, super. Bienvenue.
La première d'une longue série.
Oui, on espère. et puis, Steph nous rejoint à la technique. Merci, Steph.
Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir. Programme super chargé. On va interviewer pendant 1h05 Olivier.
Eh oui.
Je pense qu'Olivier a beaucoup de choses à nous raconter.
Non, on a choisi des musiques aussi et j'ai un ou deux sujets de rap si ça passe. Et puis si on passe tellement un bon moment avec Olivier, ben, mes sujets peuvent être traités une prochaine fois.
Et je rappelle qu'on a un téléphone. On peut appeler si vous avez des questions à poser. C'est le 815-8100.
Voilà.
815-8100.
Super.
Si jamais il y a
des
questions, des interventions. Parce que, donc, Olivier est médecin.
Voilà.
Un médecin français à Auckland.
Alors, mais médecin, docteur généraliste,
tout
comme
à fait.
Disent chez nous.
Oui, médecin généraliste.
D'accord.
Est-ce qu'on commence par une chanson ou est-ce que...
Oui, d'habitude, on commence par... Il n'y a pas d'annonce, hein, ça, c'est ce que j'ai demandé. Il n'y en a pas beaucoup d'annonces. Donc, d'habitude, on lance la musique, puis après, on va passer à l'interview.
Allez.
On a choisi quoi? On a choisi plein
a
de
choisi,
choses.
Hein. C'est Else qui a choisi Aldebert. Elle a découvert Aldebert, pardon.
Voilà.
Et donc on va passer La vie, c'est quoi?
La vie, c'est quoi?
C'est un bon début, hein. La vie, c'est quoi?
C'est du son qui se parfume.
C'est quoi l'émotion?
C'est l'âme qui s'allume.
C'est quoi un compliment?
Un baiser invisible.
Et la nostalgie?
Du passé comestible.
C'est quoi l'insouciance?
C'est du temps que l'on sème.
C'est quoi le bon temps?
C'est ta main dans la mienne.
C'est quoi l'enthousiasme?
C'est des rêves qui militent.
Et la bienveillance?
Les anges qui s'invitent.
Et c'est quoi l'espoir?
Du bonheur qui attend.
Et un arc-en-ciel?
Un monument au vivant.
C'est quoi grandir?
C'est fabriquer des premières fois.
Et c'est quoi l'enfance?
De la tendresse en pyjama. La vie, c'est un peu de tout ça, mais surtout c'est toi, c'est toi.
C'est quoi le remords?
C'est un fantôme qui flâne.
Et la routine?
Les envies qui se fanent.
C'est quoi l'essentiel?
C'est de toujours y croire.
Et un souvenir?
Un dessin sur la mémoire.
C'est quoi un sourire?
C'est du vent dans les voiles.
Et la poésie?
Une épuisette à étoiles.
C'est quoi l'indifférence?
C'est la vie sans les couleurs.
Et c'est quoi le racisme?
Une infirmité du cœur.
C'est quoi l'amitié?
C'est une île au trésor.
Et l'école buissonnière?
N'accroche pas ta Pythagore.
C'est quoi la sagesse?
C'est Tintin au Tibet.
Et c'est quoi le bonheur?
C'est maintenant ou jamais. Mais surtout, c'est toi. C'est toi. Dans tes histoires, dans tes délires, dans la fanfare de tes fous rires, la vie est là. La vie est là. Dans notre armoire à souvenirs, dans l'espoir de te voir vieillir, la vie est là. La
Oui, c'était mignon, c'était sympa.
C'est mignon. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu un nouveau Yves Dutheil, tu sais, quelqu'un qui...
un peu raison, ouais.
Quelqu'un, un texte qui fait des belles choses.
Aldebert, avec un T à la fin.
Ouais,
nos
ouais.
Amis anglophones.
Ouais, et puis...
La
oui.
vie, c'est quoi ? Très sympa.
Je connais des profs de français qui utilisent ces chansons pour enseigner le français. Ouais.
Moi, c'est cool.
C'est clair.
Il y a pire comme cours de français.
Il y a pire comme cours de français.
On commence avec l'interview.
Oui, on commence avec l'interview. Donc, Olivier est donc docteur généraliste et tu as un cursus assez intéressant parce que, au lieu de faire tout de suite médecin après tes années de médecine et de faire ça dans ton cabinet, tu es parti direct. Alors,
ouais.
Dans quel pays? Parce que
la Côte d'Ivoire, ouais. Une semaine après ma thèse, moi j'étais dans l'avion.
Tu t'es inscrit chez Médecins Sans Frontières?
Oui, tout à fait. Et en fait, je voulais partir déjà en tant qu'interne, mais je n'avais pas ce qu'on appelle la licence de remplacement. Et ils m'ont dit non, il faut que tu puisses prescrire. C'est une bonne chose, hein. Ils ne sont, ouais.
Sont pas bêtes.
Ils ne sont pas bêtes, ouais. Et ils préfèrent des médecins totalement formés qu'à moitié formés. Et puis après, j'ai pris l'avion, je suis parti en Côte d'Ivoire. Ouais.
Et donc ça, c'était cette envie de partir, c'était donc mûrement réfléchi, c'était pas un coup de tête, c'était
non.
Pas
non, c'est en quatrième
une histoire
année.
D'amour qui s'est mal passée, non c'est...
Non, en quatrième année, j'ai eu une prise de conscience en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire ici en France? Je pouvais faire j'avais des possibilités de pouvoir faire comme tous les autres, et à un moment donné, je me suis retrouvé à me poser la question, est-ce que je veux faire ça ou pas? Et je me suis dit, j'ai trouvé l'humanitaire, je suis allé à une réunion d'information et je me suis embarqué dans cette aventure.
Ouais, donc c'était... Bon, c'est bien.
Oui. Combien de temps en Côte d'Ivoire?
J'ai fait 3 mois et demi, c'était pas une très longue, malheureusement.
Donc tu as des missions.
Ouais.
Il y a des... Temps mort entre missions, il n'y a pas de temps
oui,
mort.
J'ai pris du temps entre la première et la deuxième mission, j'ai pris 8 mois.
Parce que la première mission était assez dure, c'est ça?
J'étais dans un centre de renutrition thérapeutique, c'était pour les enfants affamés en fait, pédiatriques. C'était j'étais responsable de l'aspect médical des soins intensifs. Alors en tant que médecin généraliste, pourquoi ils m'ont mis là-dedans? Parce que j'avais fait du SAMU et des urgences pédiatriques. Donc ils m'ont dit, toi tu vas aller là-bas, et je me suis retrouvé à Guiglo. C'est une commune de l'ouest ivoirien qui s'est retrouvée dans un... Il y avait la guerre, et en plus il y avait un problème d'ethnie, où certaines ethnies étaient menacées par d'autres, donc c'était assez compliqué, assez tendu.
Pourtant, dans l'image populaire, la Côte d'Ivoire, c'est pas vraiment le pays où on pense.
Il y avait pas mal de problèmes. Ça dépend quelle année c'était, mais.
C'était l'année où ça pétait. Je me souviens plus. Je suis parti en 2004.
Ça faisait agité, je pense.
C'était l'année où il y a eu un journaliste français qui s'était fait tuer. Je me souviens plus de son nom, mais ça chauffait. Mais il y a 60 langues différentes parlées en Côte d'Ivoire.
Oui,
c'est un pays magnifique, avec une diversité hallucinante, des gens très très accueillants.
Mais il y en a qui aiment pas les autres.
Ouais, malheureusement, c'est toujours le cas dans certains endroits. Mais alors, tu te retrouves avec des médecins de toutes les nationalités?
Mm-hmm.
Vous parlez tous en anglais, c'est ça?
Ah, en France, en Côte d'Ivoire, c'était des Français, ouais. C'était des francophones. Il y avait un Américain francophone qui était là, enfin, qui parlait le français, qui était lui à Toulouse. C'était une localité à la frontière libérienne. Libéria aussi, c'était
un peu le bordel.
Ça chauffait aussi. Donc. C'était tendu, on faisait des choses très intéressantes aussi, on s'occupait des... Comme le système était désorganisé à certains endroits, on avait réintroduit un système de santé là-bas, mais il faut faire attention. MSF a une philosophie qui dit qu'il ne faut pas déstabiliser quelque chose qui existe, parce que si tu arrives avec tes gros sabots et que tu déstabilises toute une économie qui est un peu brinque-ballante, tu fais du bien, mais après quand tu t'en vas, c'est un peu difficile. Donc,
Parce que quand Médecins Sans Frontières est là, c'est pas périn. C'est-à-dire,
ils essayent. Des fois, tu te retrouves dans des situations qui se pérennisent. Hein. Enfin, peut-être pas Médecins Sans Frontières, mais d'autres. Ils passent, ils font des passations à d'autres ONG sur des camps qui sont créés ou des choses comme ça.
Donc, il y a des contacts avec des autres ONG, vous travaillez
sûr.
Main dans la main
On essaye. Mais bien sûr, tu as des réunions de coordination. Hein. Quand j'étais en Indonésie aussi, après le tsunami, tu te retrouves à devoir coordonner les soins. Donc. En fonction de ce que tu veux faire, où tu es, t'essayes de pas te marcher dessus, quoi. Parce que c'est aussi.
Est-ce qu'on peut dire que Médecins Sans Frontières répond aux cas par cas plus que sur la longitude. Et donc, si, au bout d'un moment, ils passent la main.
Ils aimeraient bien. Mais moi, tu vois, ça fait maintenant, ça va faire 12 ans que j'ai arrêté. Ouais. Anna est encore en 10 ou 12. Je me souviens plus, 10 arbres du nom. Je ne sais pas si vieux que ça, mais. je me souviens plus trop. Mais ils essayent de passer. Ils ont une politique qu'ils essayent de s'implanter là où il y en a besoin quand on a des données qui disent que la situation sanitaire se dégrade. Ils vont pas, c'est là où ils interviennent. En gros,
oui, donc après c'est un tsunami, boum. Mais une fois que le tsunami, un an, deux ans plus tard, c'est un peu plus réparé. Les plants poussent, les maisons sont romans.
C'est assez
peut-être
rigolo parce qu'il y a une anecdote où à un moment donné, un truc tout con, MSF a demandé aux gens, mais qu'est-ce que vous voulez? Parce que avec le tsunami, là où j'étais, les gens ont reçu des machines pour faire des radios, des lits,
d'argent
qui ont été déversés. Et puis les gars ils disent, mais qu'est-ce que vous voulez? On veut des bateaux. Ah bon? Bah oui, on est des pêcheurs, on n'a plus de bateaux, le tsunami a tout détruit, il nous faut des bateaux. Et bah, MSF a commencé à faire des bateaux, on s'est dit, c'est pas notre spécialité quand même, on a lancé un programme et puis après on l'a passé à autre, mais on a commencé à se désengager. Moi je suis pas resté très longtemps là-bas, mais c'était assez rigolo de savoir que, il faut, des fois.
Oui. Il faut poser la bonne question.
Ah bah ouais, qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas besoin de lit, on n'a pas besoin d'antibiotiques, on veut des bateaux. Ah bah d'accord.
Et donc, c'est entièrement financé par.
Les dons.
Ouais. Ils sont. Alors, pas entièrement, mais ils sont indépendants. C'est-à-dire que si. Quand j'étais au Darfour, à un moment donné, pour vous donner un exemple, les Anglais voulaient intervenir. Parce que ça commençait à devenir très, très.
Les Anglais de Médecins Sans Frontières,
non,
ou
les Anglais, le gouvernement d'Angleterre voulait intervenir. Pour,
militairement,
ouais. Et MSF avait reçu 50% de ses fonds pour le Darfour des Anglais.
Ah oui, du gouvernement directement.
Par intermédiaire de. En gros, c'était des fonds anglais. Et résultat, tu perds ton indépendance. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est si vous intervenez, on vous rend votre argent. Donc, il ne peut pas y avoir d'amalgame. Oui. Avec MSF, c'est clair, net et précis. Ils ont des fonds propres qui leur permettent de décider ce qu'ils veulent faire. Là où ça s'est passé pour moi, je l'ai vu, c'était aussi en Côte d'Ivoire, où le programme alimentaire mondial a soudainement arrêté de donner de la nourriture à certaines zones. Et MSF est venu avec ses fonds propres pour pouvoir faire les programmes, parce qu'ils pensaient d'après leur propre évaluation. Parce que le système des ONG, tu dois
faire. Enfin, ONG, c'est organisation non gouvernementale.
Ouais,
on pourrait penser qu'elles sont toutes indépendantes.
C'est des bisounours. Nous avons les Nations Unies, oui. c'est des bénévoles qui travaillent pour le bien de l'humanité en général. Et bien sûr, il y a beaucoup de gouvernements démocratiques, c'est connu aux Nations Unies, qui n'ont à cœur que le bien-être des populations.
C'est l'ironie ou ce qu'il veut dire.
C'est totalement ironique. Mais non, mais tu as des gros investissements hein, derrière. C'est des choses. Là, on touche à des choses très sérieuses. Hein. Donc, t'as des quand tu sais que par exemple en Côte d'Ivoire, t'as le golfe là où t'as les Américains qui ont investi. Il y a du pétrole dans le loin. Il y a des cacao dans l'Ouest ivoirien. C'est des gros sous.
Il y a Nestlé qui envoie pour le chocolat. Et puis il y a Exxon Mobil qui envoie pour le pétrole, et les Chinois pour les routes et autre chose.
Il n'y a pas de dans l'humanitaire, t'as pas de tout blanc tout noir, t'as des zones de gris. Mais avec MSF, au moins on avait cette indépendance là de se dire les fonds, c'est nous qui faisons l'évaluation. Et c'est après, on adapte en fonction des besoins sur le terrain, quoi. Donc c'est pour ça que les autres ONG ont besoin de passer un proposal. Ils passent une proposition qui est validée ou non. Et même si elle est validée, s'il y a un changement stratégique qui est décidé par ceux qui donnent les fonds, ben tu te retrouves avec plus rien. Donc c'est
difficile. À l'origine, MSF, c'est français ou ça a été créé?
C'est français.
Il y en a un qui était devenu ministre de la Santé une fois qu'il avait quitté MSF.
Monsieur Kouchner. C'était un. Alors, honte à moi, je ne connais pas tout très bien de l'histoire. Je ne connais pas toute l'orthodoxie MSF, mais c'était au départ des journalistes et des médecins. Ouais. C'était un mariage entre les deux. Et puis après, il y a eu une scission où ils se sont. Où Kouchner est parti, je crois qu'il a fait Médecin du Monde, ce qui était une autre organisation.
D'accord. Ouais.
Mais ça, alors je peux. Je ne suis pas.
Donc tu es resté 7 ans chez.
5
ans.
Ah ouais, ouais.
5 ans. 5,
ça m'a suffi.
C'est 5 missions.
Combien
ou c'est 12 ans de mission?
7. En fait, j'ai fait que des missions sur des terrains de guerre.
Donc toujours en essentiellement
bah non,
en
l'Indonésie, c'était pas la guerre, c'était le tsunami. Tu
ah, on n'était pas là pour faire ça. C'est autre chose. Il y a des conflits qui sont.
C'était
compliqués.
À cause de East Timor, alors
Non. J'étais à Sumatra, dans la région de Banda Aceh, ouais. Et là-bas, il y a des choses qui se passaient et qui avaient très peu de lisibilité. On entendait des choses et il y avait des difficultés d'accès aux soins. C'est des guerres oubliées. C'est des guerres où t'as des gens qui font la guerre depuis 20 ans.
C'est là où les journalistes devraient se revenir avec MSF, en fait.
Bah, je sais pas. Mais MSF, ils ont
C'est un peu oublié, je veux dire.
Ouais, c'est oublié, oui. Bah, t'as beau publier certaines choses sur le site MSF, vous pouvez aller voir msf.fr. Il y a 5 branches MSF, hein. Et msf.fr, et tu verras, t'as toute la liste des missions et si c'est des terrains en guerre ou pas, quoi.
Mais c'était essentiellement en Afrique ou tu as été?
Je suis allé au Sri Lanka aussi. J'étais à l'extrême nord dans la péninsule, à Point Pedro. C'est à l'extrême nord. Et non, ça chauffait aussi.
Il y a combien de gens qui travaillent pour MSF?
Oh, non, c'est strictement rien.
J'ai l'impression que c'est énorme. Hein,
Tu sais, il y a une grosse base à New York, il y a un gros.
Alors, New York, c'est une antenne française.
Ouais, mais je crois qu'il y a un certain nombre de gens qui travaillent pour MSF, mais qui peuvent être en congé ou entre deux missions.
Tout à fait.
Ouais, je crois que c'est nécessaire d'ailleurs.
En tant que bénévole,
courses.
Tu peux pas vivre avec juste le salaire de MSF. Hein, c'est sans.
Et quand t'es envoyé dans un terrain en guerre comme ça, tu bosses temps plein ou t'as un week-end où tu vas en vacances au milieu
alors,
de
la guerre? Alors t'as un
break
à 3 mois. Au bout de 3 mois, t'as un break, ouais.
Mais sinon, pendant que t'es là, c'est temps plein MSF.
Ouais.
Tu vas pas faire du tourisme dans les collines.
Non.
Et tu fais ton métier où tu fais beaucoup de passe-passe, un peu de politique, et ta Kalachnikov à côté
sur
de toi,
le terrain,
où tu fais. Est-ce que t'es docteur 24/24 ou t'es docteur?
Tout dépend ce que tu fais. J'ai été coordinateur de projet où là je faisais un peu de la coordination, de la représentation, des évaluations. Ça dépend de quel est ton rôle.
Il fallait négocier avec les locaux.
Bah, bien sûr, tu peux pas. Oui. Il faut que tu sois transparent pour que les gens comprennent que tu n'as pas d'autre raison d'être là. Si tu es là avec des seringues, ils vont pas avoir peur de toi. Mais si tu es là et que tu es encadré comme faisaient les UN avec les gros gars,
avec les gros
machins, les bidules, tu te dis, nous on partait sur des routes, on était tout seul avec nos 4x4 blancs et le drapeau et c'est tout. Quoi.
Mais on n'a jamais essayé de vous attaquer?
Bah si, il y a eu de la casse, bien sûr qu'il y a eu de la casse. Mais moi il y a eu des choses, mais j'ai eu de la chance, mais c'est pas non plus. Mais s'il y a une vraie transparence, alors et que tu arrives à négocier avec toutes les parts du conflit, alors tu es connu et donc tu as un certain degré de sécurité. Mais ta sécurité dépend des informations que tu vas réussir à rassembler pour tes activités. Tu vas pas aller sur le terrain pour faire de l'espion. Tu vas aller sur le terrain pour évaluer si tu peux faire ta clinique mobile à cet endroit. Est-ce que ça va être, sûr? Tu vas aller voir le chef avant d'envoyer ton staff. Tu vas lui dire, bon, est-ce que je peux venir mercredi? Je serai là de 9h à midi. On va sélectionner les gens. On va faire un triage et ceux qu'on doit prendre, on les ramènera à l'hôpital et puis les autres, on fera un truc.
Donc, quand t'es chef de mission, tu pars souvent en avant les médecins, en fait. Enfin, ceux qui vont.
J'ai jamais été chef de mission.
Non, je veux dire coordinateur
terrain.
Donc
ouais.
Tu es un peu obligé de partir avant les médecins pour savoir si ça va marcher, si
ça dépend, tu as des choses qu'il faut faire pour s'assurer de la sécurité de ton équipe.
Tout le monde,
dès que tu es coordinateur, ça c'est un truc qui fait de grand bien. Après ça c'est la première chose parce que si tu n'as pas la sécurité, tu n'as pas de programme.
Oui, donc tu reviens.
Ah bah
tu t'évacues.
Ouais, ça nous est arrivé au Libéria, il y a deux factions qui ont commencé à chauffer. À l'époque, j'étais médecin là-bas et le coordinateur a dit non, on reste pas, ça craint. Donc on est parti à 60 km dans une base arrière qu'ils avaient à Vanjama. Moi, et là, on est resté 2, 3, 4 jours. On a attendu. On était avec des Italiens aussi qui avaient bougé aussi. Ils avaient des pieds de poulet. Des pieds de porc. Ils avaient ça. Je sais pas comment ils avaient réussi à avoir ça. C'était délicieux. On a passé 3 jours super avec des Italiens manger de leur bouffe. C'était sympa.
Et j'imagine que quand tu étais
en c'est pas l'osobuco, mais c'est presque ça.
Les pieds de porc, les pieds de cochon.
Ça se mange. Mais quand tu vas dans des pays comme ça où il y a des us et coutumes assez fortes, il vaut mieux être un homme qu'une femme médecin.
Ah, ça dépend où, ouais, mais oui, c'est
selon
vrai. Mais
la
Anna pourrait vous
aussi,
en parler beaucoup plus. Anna, qui est ma femme.
Oui, tu as rencontré ta femme
au Sri Lanka. Ouais.
Ah, d'accord.
Elle était logisticienne. Après, elle est allée au Darfour, là où j'étais allé. Elle pourra te parler de la condition féminine dans certains pays qui est pas jojo. Hein.
Et on avait. Mais en tant que médecin, c'était essentiellement des hommes médecins qui étaient pris.
Non, il y avait de tout. Il y avait de tout. Mais tu vois que c'est dur. Hein. T'es déjà assez dur, mais si t'es en plus t'es une femme, tu dois
t'affirmer encore plus.
Ah ouais. Ah non, c'est vrai ça. Ça c'est ça, mon chapeau. Hein. Je tiens mon chapeau. Ça c'est assez impressionnant. Mais tu te rends compte que la femme, c'est quand même la... quand tu vas sur ces terrains-là, en République démocratique du Congo, on avait, il y avait un problème. C'est dans l'Ouest, dans l'Ouest de ce pays-là, qui est un pays magnifique, des violences qui durent depuis très très longtemps. Je me souviens plus.
Épique, hein, c'est...
Ouais. C'est assez hallucinant. Et il y avait des viols en série, quoi. Donc tu es obligé de faire des programmes pour ça, parce que ça, c'est des trucs. Et les femmes ne veulent pas le parler sous peur d'être répudiées. Ouais. Donc le rôle, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait été discuter avec les chefs pour leur dire il faut que vous autorisiez vos femmes à aller là-bas, parce que sinon, vous allez répandre des maladies dans vos communautés. Ouais. Et si elles ont peur de parler, ou si il faut que ça sera dans l'anonymat, personne ne saura. Et ça a très bien marché. On a réussi à avoir des taux de réponse qui étaient il y a même certains mois, on était à 80% où les femmes venaient dans les 48 heures pour pouvoir recevoir les soins anticides pour le HIV, l'hépatite et tout ça. Donc ça marchait, hein. Mmh. Non, mais c'était des programmes.
Est-ce que vous entraînez aussi les gens locaux à devenir médecin
tout
ou
à
avoir...
Ouais, et puis on apprend. Moi, je me souviens, ça, la pneumopathie aux yeux d'or. C'était un médecin ivoirien avec qui j'avais travaillé. Peut-être arrive toi. Moi, j'étais bête et méchant. Je prenais en parasitologie, infectiologie. Qu'est-ce que je suis, moi, médecin blanc. J'ai appris ça. Lui, il a plus d'expérience que moi dans son pays. Ouais. Et donc,
il connaît les moustiques locaux.
Ouais, exactement. Ouais. C'est des bébêtes. Hein, ça, c'est pas bon. Donc lui. Et puis je me souviens, on avait échangé sur certains protocoles et des trucs. Donc moi j'arrive avec des médicaments que des fois il a pas accès parce que par exemple on avait de la ceftriaxone, c'est un antibiotique très très puissant, il faut savoir l'utiliser et tout ça, et lui il a pas l'habitude de faire. Donc c'était moi qui étais le responsable, mais avec lui il avait des responsabilités, c'était son pays, il était là, et j'ai appris la pneumopathie aux yeux d'or, c'est un truc des bébés qui toussent avec les yeux tout jaunes. Bon ben voilà, j'ai appris quelque chose et j'ai appris plein d'autres choses. Et donc non, se dire que moi,
médecin... Pneumopathie, c'est parce qu'il gonfle.
Non, pneumopathie, c'est parce que c'est les poumons.
Et pourquoi les yeux sont jaunes?
Parce qu'il a un problème avec le foie.
Avec le foie, ouais.
Et c'est extraordinaire. Si tu pars, toi, médecin blanc qui sait tout, tu vas te prendre une mandale. Et puis les gens vont pas te parler.
Non.
Et puis, si t'es proche des gens, alors les gens vont commencer à te parler. Mais tu sais, faudrait pas aller là parce que tati, faut pas aller. Et puis après, tu commences à comprendre où t'es, quelle est la dynamique du lieu où tu es. Parce qu'il faut, même si t'es expat, médecin et que tu es tout le temps dans ton centre thérapeutique, il faut que tu aies les oreilles ouvertes parce qu'il y a des mouvements de troupes, il y a des trucs, et des fois ce sont les gens qui viennent te voir et disent docteur Olivier, il ne faut pas y aller demain, et après tu rapportes qu'est-ce qui se passe, et c'est au coordinateur de pouvoir faire ça. Donc si tu arrives avec toi, moi je.
Est-ce qu'il y a une expérience qui t'a particulièrement touché ou qui a été un tournant
positif ou négatif?
Positif ou négatif, quelque chose qui
t'a... Positif et négatif.
Tout.
C'était la mission dont je me souviens le plus, c'est la mission de la Côte d'Ivoire. C'était la première où là, on était c'était des conditions dures. Moi, je voyais que les bébés qui étaient durs, c'est durement touchés, affamés. Tu le vois, c'est des petites crevettes là, qui sont tout maigrichons, un kilo et demi. Quel âge? Tu te dis bon, il y a 1,5 kg, mais c'est vivant ça? Et bah oui, c'est encore vivant. C'est toi qui vas t'en occuper. Ah d'accord, je connais pas ça. Et je travaillais au SAMU, aux urgences pédiatriques. J'ai jamais perdu un gosse, jamais, ça n'existait pas. Mais là, quand le premier est parti, je me dis ouh, ça secoue, hein. Ça c'était très dur. Et après j'ai eu une conversation avec ma coordinatrice médicale, celle qui s'occupe de la qualité des programmes sur le terrain, et qui m'a dit tu sais, t'es pas là pour ceux qui partent, t'es là pour ceux qui là. Alors quand t'as le blues, toi t'es dans ton centre intensif, va voir ce qui se passe dans les tentes à côté. Va voir ce qui se passe.
Oui, ceux que tu réussis à sauver, oui.
Que je vois pas, parce que moi je vois que les cas graves. Je vois pas, moi j'étais baboum, que du cas grave. J'avais pas du cas, il a le nez qui coule. Non, moi j'avais du... un truc pas chouette, quoi. Donc, résultat, tu vas là-bas et tu vois les gamins qui évoluent. Ils grossissent, tu les vois qui grossissent. Et après ils sortent et tu les vois pas. Et là, c'était... me souviens plus, après deux mois et demi, t'as les mamans. J'étais avec le logisticien, on était dehors, on profitait d'un petit break. Là-bas, il y a un temps en particulier, c'est vers 4h30, 5h du soir, je crois. T'as un vent qui arrive et qui annonce la pluie. Et c'est quand t'as bien chauffé, t'as bien marné toute la journée, t'es en sueur, tu t'assois sur une petite terrasse, t'attends, t'as le vent qui arrive et t'as cette brise qui arrive. Et juste avant, les mamans, elles se sont mises à danser tout autour de nous. Et ça c'était chouette. Ça c'était vraiment sympa. Ouais. Alors elles l'ont dansé, elles ont imaginé, c'était sympa. Puis quand j'étais allé au Tchad aussi, dans le sud du Tchad, ils avaient fait une danse où nous les médecins on s'était fait embarquer, puis on dansait avec eux. Il y a des souvenirs très durs où tu te dis ouch, et puis t'as des souvenirs magnifiques quoi aussi.
Moi on a une amie qui a aussi fait Médecins sans frontières, mais quand qu'infirmière. Et sa première mission, c'était au Congo. Le premier jour, elle a dû faire un accouchement aussi. Elle n'a jamais fait un accouchement, donc c'était un peu le. Mais quand elle est partie, je sais pas, 6 mois après. Donc elle s'appelait Céline. Il y avait plein de petites Céline qui couraient partout. Et il y avait aussi plein de petits Célin.
Oh, c'est vrai.
C'est vrai.
C'est touchant. Hein. Ouais, ça c'est. Mais alors, quand tu es revenu en France, ça t'a paru très très morne d'être médecin en France?
Oh, j'ai pris du temps parce que la dernière mission était très dure. Sri Lanka, ça a été en tant que coordinateur, ça a été chaud les marrons. Donc j'ai pris 3 mois où j'ai rien foutu.
T'as pris des vacances mentales.
Ah oui, totalement. Là, j'ai pris le cerveau, je l'ai mis à côté du lit.
On peut faire une pause médicale.
Une pause musicale et on revient aux choses graves.
Ouais.
Vous aviez choisi 4 ou 5 musiques déjà.
On va mettre Je ne t'aime plus mon amour.
Allez, Je ne t'aime plus mon amour.
Ça semble très à propos.
C'est Manu Chao.
J'aimerais mourir pour plus jamais te voir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Parfois j'aimerais mourir tellement y a plus d'espoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te revoir. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien savoir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus.
Manu Chao, je ne t'aime plus.
Alors pendant que la chanson passait, on a regardé quand même la carte d'Afrique parce que Olivier nous a fait beaucoup voyager. Ouais. Et on revoit un peu la géographie. Mais on a du mal à réaliser la taille de ce continent et des pays.
J'avoue que j'ai perdu un petit peu. Il y a des notions que j'ai perdues, je ne sais plus. Ça fait pas. Voilà. Ah, si, tu vois, c'est tout l'Ouest.
C'est
ouais.
On parle du Darfour. Un bon tiers.
Alors, le Darfour, c'est 500 000 km², donc c'est le double de la Nouvelle-Zélande. Donc, c'est la taille de la France.
Ouais, c'est ça.
Ouais, donc, on peut s'y perdre. C'est une grosse région, province.
C'est une grosse région.
Ouais.
Et ils ont des oranges vertes.
Ça, oui, si, j'ai vu ça.
C'est magnifique.
Oui,
c'est cool. C'est un détail comme ça, et c'est tout vert.
Et c'est tout vert. Mais ça a le goût du linge.
Eh ouais, ouais.
Ah ouais, ouais.
Ouais, c'est magnifique. Donc c'est un pamplemousse qui a le goût du linge. Ouais.
Tu as appris à cuisiner différentes choses?
Non.
Tu as goûté,
c'est jamais le temps de cuisiner.
Est-ce que ta femme, Anna, a appris à cuisiner des trucs locaux aussi?
Ah, je sais pas du tout, non. Et qu'est-ce que vous mangez, alors?
Ah, bah, ce qu'ils mangeaient. Bah, au Libéria, quand on était à un moment donné au Libéria.
Alors, vous mangez local, quoi.
On mange local.
C'est pas MSF qui arrive avec ses cantines, quoi.
Bah, ouais, mais enfin, s'il y avait la famine.
Bah, c'est ce qui s'est. Et on a eu une rupture d'approvisionnement parce qu'il y a une route de 60 km et au milieu, il y a un tronçon de quelques kilomètres. Ils appellent ça sea mud, c'est de la boue. Et au Libéria, entre Vanjama et...
Donc nous sommes en à côte ouest de l'Afrique, le Libéria.
Attention, on t'entend plus là, le micro là.
Alors c'est au Sierra Leone, tu prends la frontière.
Sierra Leone, hop.
À la frontière là.
Donc là.
Tu Google Vanjama.
Comment on écrit ça?
Ah, je me souviens plus. Et en fait, il y a une route et il y a eu.
Bon,
plus
peur,
rien
là.
Ne passait. Plus rien, il ne peut rien ne passer.
C'est pas ça, sec bois main? Sec bois main? Non, c'est pas ça.
Donc ça a été le régime
bon,
ça a été,
j'ai mangé des oignons, des oranges et des avocats pendant 3 semaines.
Donc t'as perdu du poids aussi?
Ouais, aussi. Oh, bah, ouais. Tu perds du poids de toutes les manières.
Ouais, bah.
Mais après, alors, ils étaient contents qu'on soit resté, qu'on soit pas parti. Alors il y en a un qui a réussi à tuer une espèce d'antilope. De la jungle. Alors, si t'arrives à tuer une antilope, c'est qu'elle est pas en bonne
santé. Ah oui.
c'était assez goûteux. Et c'était la seule viande qu'on a mangée.
C'était des protéines, donc.
Ouais.
T'as mangé quand même.
Ouais, j'ai mangé. C'était assez étonnant. Et puis non. C'était.
Mais donc pour toutes les missions MSF, normalement tu manges local, quoi.
Ah, tu manges que local. Ouais.
Ouais. C'est pas le Paris-Dakar où on débarque avec le camion.
Et alors, comme t'es en situation chaude, la communication avec Paris, c'est le siège.
Alors, on communique avec la capitale et la coordination de capitale par radio ou par email si possible. Mais là,
si la capitale est en guerre aussi. Ou...
Ah, bah, il n'y a pas de communication.
Ah, oui, d'accord.
Ouais.
Vous êtes en tout seul pendant 3 mois, c'est bon, quoi.
Non, ça arrive. Non. Et puis, il y a des
nouvelles technologies
terrain par là.
Hein, ça a dû évoluer.
Je ne sais pas, parce que c'est difficile. Hein, dans ces coins-là, tu n'as pas d'internet. Hein, donc, c'est uniquement radio. Tu appelles.
Oui, et puis les téléphones à 10 000 $. Médecins sans frontières, j'imagine qu'ils en ont pas 500
000. Il y en a, mais on en avait pour certains contextes très très particuliers.
T'es obligé
d'être. C'était au milieu du Darfour, et ça sent pas bon, t'es obligé d'appeler. Hein. Ah oui, okay. S'il te plaît. On n'est pas complètement.
Mais on vous évacue aussi en hélicoptère ou...
Ça peut arriver.
C'est l'armée
qui jamais...
vous aide ou c'est...
Ça dépend des accords qu'il y a. Je sais qu'il y a des gens qui ont été évacués des fois par les Français, d'autres qui ont été évacués par les Américains. Ça dépend de quels sont les accords qui sont en place si ça sent pas bon. Ça c'est déterminé par les équipes au moment où les choses se passent mal. Par exemple, je sais qu'en Côte d'Ivoire, on était quand on était proche de la frontière libérienne, on était sous la responsabilité, enfin sous la responsabilité. On était indépendant. Hein, attention, mais si ça, on pouvait aller voir les légionnaires, c'était les légionnaires. Et quand on était plus loin dans le terre, on était chez les chasseurs alpins. Donc on avait des contacts avec les militaires, mais on était indépendants.
Ouais, ouais.
J'ai des petits messages de Fred là, qui m'envoie des choses. Alors il paraît qu'il y avait des Belges, donc les créateurs de MSF.
C'est possible,
pas si c'est vrai.
Sûrement,
oui. Il y a MSF Belgique, il y a MSF Suisse, il y a MSF Hollande. MSF, c'est pas que France. Maintenant, il y a 5 branches.
Et alors, elle me rappelle aussi que notre copine Céline, là, en fait, ils ont dû évacuer à la fin parce qu'ils se sont fait braquer, justement, comme tu racontais, l'évacuation quand.
Ça arrive.
Ouais.
Qu'est-ce qui fait qu'on arrête? Parce qu'on est-ce que c'est un métier de jeune, médecin sans
frontières? Déjà, financièrement,
t'es célibataire,
payé ou pas?
Oui. Alors quand t'es bénévole, t'as une prime de 600 euros par mois.
Okay.
Enfin, moi à l'époque, hein, donc t'as intérêt à avoir quelque chose quand tu rentres à la maison, parce que si t'as un appart à louer, des trucs comme ça va vite. Hein.
Ouais.
Et quand j'étais responsable terrain, je crois que je suis monté à 1002, tu vois. Un truc comme ça, donc waouh.
Enfin ouais, bon, quand
tu passes 5 ou 6 mois à 1002, tu vois.
C'est ça aussi, donc t'es payé en dessous du SMIC, quoi.
Bah ouais, parce que tu fais partie d'une organisation qui pense que le plus important, c'est qu'est-ce qui va aller aux populations qui sont. C'est quand même un engagement qui est aussi.
Pour devenir riche.
Non, bah non, sinon tu vas chez les UN.
Voilà. sur place, t'as pas de frais, quoi.
Non. Ah non, t'es nourri, logé. Ouais. T'es nourri, logé. Hein.
Donc t'es 600 euros, bon, tu vas peut-être t'en payer. est dans le Y à Paris, mais le reste, tu économises. Ouais. C'est, il y a un reste, enfin.
Ouais. Ouais. Non, et puis, c'est... on s'arrête à un moment donné, parce que...
Ma question, c'est qu'est-ce qui fait qu'on arrête à MSF?
Alors, j'ai eu... la dernière mission était une mission qui était très, très éprouvante. Et il y a un moment donné où je me suis dit... Parce qu'il faut savoir dans quel contexte tu t'engages. Des fois... certains gouvernements dans lesquels tu travailles vont se légitimiser parce que tu es là. Regardez comme je suis bon, parce que je les laisse travailler. Regardez comme ci, comme ça. Donc, c'est pas, c'est des choses particulières. Et puis aussi, j'étais cramé. Il y a pas que ça. Je pense que j'ai été cramé.
Il y a une durée de vie moyenne d'un bénévole.
Hein? Oh non, il y en a qui sont toute leur vie. Hein.
Ah c'est vrai.
Ah ouais ouais. Mais tu sais, moi j'ai été la dernière mission, j'ai été cramé, je dormais 3 heures par nuit, il y avait des bombardements tout le temps, il fallait être au courant de la situation, il y a un moment donné.
Sri Lanka,
ouais.
Et quand tu reviens en France, tu peux être encore.
J'ai fait 3 mois, je n'ai rien, foutu. Il n'y a pas tout le monde qui a le luxe de pouvoir faire ça. Hein. Moi, j'ai eu la capacité de retourner chez Popo Maman.
Parce qu'il peut y avoir des traumatismes.
Totalement.
Et ta femme était avec toi, là, vous étiez déjà mariés ou pas?
Non. C'est là où on s'est rencontrés. Et puis elle a continué encore. Elle a fait une autre mission. Elle est allée au Darfour, sur le même terrain où j'étais, moi. Donc elle m'a ramené des trucs. Et puis après, on était ensemble.
Elle est française aussi.
Non, elle est néo-zélandaise.
Tu
as d'abord fait un arrêt en France pendant quelques années.
7 ans, ouais, j'étais médecin
généraliste. Donc c'est Anna, la néo-zélandaise, qui est venue en France.
Au départ, on avait une vie posée en France, quoi.
Et vous étiez tous les deux médecins, c'est ça?
Elle est ingénieure.
Elle est ingénieure.
Elle était logisticienne dans les projets auxquels elle a participé.
Et c'était facile pour un logisticien de trouver un boulot en France après ou pas? De revenir après Médecins Sans Frontières c'est difficile?
C'était difficile. Alors, il y a aucun diplôme qui est vraiment reconnu. Pour les ingénieurs, il faut faire une espèce d'équivalence. Ouais. Et puis après, par contre, si tu connais des entreprises qui cherchent des ingénieurs anglophones,
c'est bon.
Est-ce qu'il y en a beaucoup? Je sais pas, parce que l'ingénierie en France est très très développée. Il y a des superbes écoles et tout ça. Quoi. Donc après, c'est un petit peu une chose gardée. Hein.
D'accord. Ouais. Et donc ça a été. Tu as été heureux d'être médecin en France ou?
Oui.
J'avais
ma patientèle. J'étais à Craponne, dans la banlieue ouest lyonnaise. C'est sympa, quoi.
Et qu'est-ce qui fait qu'on part de France? À part ta femme donc est néo-zélandaise, mais est-ce que c'est facile de se réinstaller en Nouvelle-Zélande comme médecin? Parce que les équivalences. J'ai un dentiste qui est croate et il m'a dit, lui, il était chirurgien facial pendant la guerre du Kosovo, chose. Et il a dit, non, je suis que dentiste ici parce que je veux pas refaire 10 ans d'études pour être chirurgien facial.
Donc, il y a pas d'équivalence. Donc, pour toi, c'est.
Alors, c'était la même chose?
Tout à fait. Il a fallu que je prouve que
tu es médecin.
En médecine générale, il faut j'ai envoyé tout le CV, mais ils m'ont dit c'est pas les mêmes patients, c'est pas les mêmes traitements, c'est pas les mêmes protocoles, c'est pas les mêmes études. Et ils ont raison. On a 2 ans en moins en France. Eux, ils ont 2 ans en plus pour avant d'intégrer le cursus de médecine générale. Ils ont 2 ans où ils font des stages supplémentaires que nous on n'a pas. Donc,
mais t'as été chez MSF.
Ouais, mais ça c'est pas pareil. MSF, t'es pas la même. C'est pas les mêmes.
C'est pas parce que tu es en Nouvelle-Zélande.
Là, je suis pas en humanitaire quoi. Non, enfin, Auckland. Mais le truc, c'est. Non, il a fallu que je prouve par A plus B. Au départ, il voulait que je repasse. Mais nous, le cursus en tant que médecin généraliste, c'est 3 ans pour être fellow. Ouais. Donc, mais j'ai réussi à leur prouver que je pouvais être sur une voie plus courte et j'ai dû repasser que 50% des examens. Mais voilà.
Ça t'a pris combien de temps? 2 ans? 3 ans?
En 18 mois. Enfin, 18 mois. Il a fallu que je prouve que je pouvais faire ça. Donc,
Ça vaut le coup ou c'est difficile?
C'est ton indépendance.
Ouais.
C'est ton indépendance. Quand t'es fellow, parce que quand t'es pas fellow, t'es considéré comme un interne. Les diplômes français est reconnu jusqu'au niveau d'interne et t'as besoin d'être supervisé. Ça veut dire que tous les mois ou tous les 3 mois, t'es obligé de t'asseoir avec quelqu'un qui va signer un papier et t'es obligé de passer des formations en ligne ou formelles. Et c'est autre chose. Tandis que quand t'es fellow, tu as la capacité de choisir toi comment tu vas te former. C'est toi qui gère ton truc.
Je vais t'arrêter et tu vas reprendre un peu ton souffle. On va mettre une petite chanson.
Et puis j'aurai une question sur le fellow après.
Parce qu'on a plein de questions.
C'est quoi la prochaine?
C'est de Amsterdam, Jacques Brel. C'est Olivier qui l'a choisi.
dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves qui hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mortes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de pierres et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en pluie. Puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon France. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors, le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent, et qui boivent et reboivent, et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, dans vous ou d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles, et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles. Dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam.
Voilà, Amsterdam, le port.
Ah, elle est intense aussi cette
Jacques
chanson.
Jacques Brel.
Ouais.
Alors, partie 2 un petit peu. Moins de guerre et plus de paix. Médecin généraliste,
et
ben, holistique.
Et d'autres problématiques. Donc, ouais. la reconnaissance de ton diplôme. Enfin, mm-hmm. Donc, tu as repassé,
en Nouvelle-Zélande.
Tu as repassé en combien de temps tous ces
18
examens?
Mois. En fait, il te donne un programme. Il faut qu'en 18 mois, tu aies fait toute une série de validations. Je tape sur la table et il me dit d'arrêter de taper sur la table.
Bah oui, parce qu'on l'entend très très bien dans le micro, malheureusement.
Désolé.
Ça fait boum, 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 boum.
Mais c'est bien validé.
Donc il fallait tout valider. J'ai passé des examens. Et quand j'ai passé ces examens, bon, bah, mais c'était dur.
Mais en termes, tu as dû réapprendre le vocabulaire ou tous les mots sont à peu près les mêmes, c'est du latin et.
J'ai eu la chance que dans ma faculté, il y avait l'anglais médical obligatoire.
Ah.
Donc, la faculté RTH Laennec de Lyon est une faculté qui était très orientée vers côté science, c'est-à-dire qu'elle fait passer des diplômes de science aux étudiants en médecine. Donc, tu es obligé de te former, d'aller chercher des articles sur Internet, et la majorité des articles sont en anglais. Donc, et puis même, c'est pas non plus très très différent. Enfin, il y a des choses un peu bizarroïdes en termes de comment ils traduisent les choses,
Et sinon aussi, peut-être à Darfour, t'as dit qu'il y avait beaucoup d'anglais, donc peut-être qu'il y avait des médecins américains ou anglais ou autre chose. Donc
tu parlais en anglais aussi. Ouais.
Voilà, donc aussi le Sri Lanka, j'imagine, anglais. Donc le côté médecine.
Et accessoirement, il y a une femme néo-zélandaise.
En plus.
Mes parents parlent très bien français.
Mes parents m'ont fait parler. On pouvait apprendre l'anglais à 4 ans. Donc,
ah
ouais. Ils avaient à la mini-school à 4 ans. Donc,
Mais alors, tu as dû passer 18 mois, c'est horrible.
Ah bah, demande à Anna, ouais, de ce côté-là. Ouais. Ouais, tous les soirs, j'étais sûr à réviser le programme de médecine générale.
Plus tu travaillais quand même pendant cette période
ouais,
ou tu faisais que ça
en tant qu'interne, donc tu étais interne.
Non, non, j'étais médecin généraliste et c'est pareil. Mais le truc, c'est que t'es sous supervision.
Voilà,
et moi, je voulais plus être sous supervision. Je me suis même un petit peu.
Donc, et tu travailles déjà dans un centre holistique?
Ouais, j'étais.
Pourquoi t'es tombé dans un centre holistique? Déjà, ça veut dire quoi, holistique?
Alors, holistique, théoriquement, c'est que tu prends la personne dans son entièreté. C'est-à-dire que tu la saucissonnes pas en partie. Tiens,
donc, ça vient du mot whole.
Tu prends. Et puis là, ils ont une philosophie qui est assez particulière, c'est qu'ils prennent le temps pour le premier rendez-vous de connaître la personne. Donc, tu vas pas passer 10 minutes ou un quart d'heure, Tu vas parler, tu vas essayer de comprendre ce qui se passe, quels sont les problèmes et tout ça. Et donc, il y a même des gens qui restent 45 minutes hein, avec le médecin et on essaye de voir, d'aller au fond des choses, de savoir s'il y a besoin de faire d'autres investigations, de prescrire d'autres tests.
Et c'est privé ou c'est bon?
C'est la médecine générale. C'est pareil. Alors, il y a des.
Je sais pas, quand t'as un truc de 45 minutes, il faut payer en plus.
Ouais, tu payes en plus. Bah, c'est trois fois le prix de 15 minutes, quoi.
Donc, c'est pas le gouvernement qui paye ça?
Non. Ici, il y a une partie pour 15 minutes qui est payée par le gouvernement, une partie que tu payes toi-même. Mais pour 45 minutes, non. Mais ça, c'est toi. Après, si t'as besoin que de 15 minutes, t'as que 15 minutes, quoi. Mais c'est pas le système à la française où t'as 60-40, 60%. Du ticket modérateur, ça c'est pas comme
donc
ça.
Ça existe en France aussi, les centres holistiques ou.
J'en connaissais pas, moi.
Ah non,
non. Donc c'est chacun qui a sa propre pratique.
C'est par hasard que tu l'as trouvé ici.
Oui, tout à fait.
Ouais.
Disons que ce qui était bien, c'est que moi je voulais être, si possible, à Auckland et il y avait une offre d'emploi qui était là, donc c'est comme ça que je me suis retrouvé.
Ta femme est née à Auckland et d'Auckland?
Non, Shore Girl.
Et donc t'as postulé, tu es. D'accord. Et donc là, à nouveau, tu t'es enrichi d'autres connaissances.
C'est une autre pratique. Dans le sens où tu essayes, il y a tout un tas de tests fonctionnels que je ne faisais pas quand j'étais en France et que sur des choses j'avais jamais entendu parler de tester le zinc par exemple, tu sais le zinc.
Oui.
Voilà, quand tu lis ce que fait le zinc dans ton corps, tu te dis j'ai intérêt à savoir ce que ça qui se passe. Et en
donc le zinc qu'on met sur nos pommades pour avoir moins de soleil,
exactement.
C'est pas bon pour toi?
Si.
Ah si, c'est bien.
Ça c'est bien, mais c'est le zinc qu'il y a pas sur ta peau pour te protéger du soleil, le zinc que tu manges pour pouvoir renforcer différents.
On mange du zinc?
Ouais, théoriquement pas.
Comment on fait?
Pas toi David?
Mais je sais pas, j'ai jamais eu.
Bah, tu vas au bar. Tu vas au bar, au lieu de poser ton verre dessus,
tu le manges,
voilà. Et non, le zinc ici c'est
dans les carottes, les patates.
Non, il y en a pas trop ici, c'est surtout les fruits de mer.
Ah.
Et en fait, il y a des carences de pas mal de gens sur le zinc.
Ah, en fait, il faut plus de zinc.
Ouais.
Ah.
Et donc il y a d'autres choses et puis même des choses toutes bêtes comme prendre de la vitamine D, ça a l'air idiot, mais quand t'as un hiver ici qui dure entre 3 et 6 mois et que t'es pas exposé au soleil, je peux t'assurer qu'à la fin de l'hiver, il y a beaucoup de gens qui traînent un peu la patte, mais donnez-leur un peu de vitamine D et tu verras, ça change un peu. Hein.
La vitamine D, c'est dans le beurre, c'est dans quoi?
C'est dans ta peau là, il faut mettre ta peau au soleil.
Juste au soleil.
Ouais. Mais ici le soleil c'est pas ton
ami. Plus de soleil ici que par exemple en Belgique.
Bah, c'est différent.
Ouais, c'est
pas le même.
Bah, les périodes ensoleillées, il y en a des très belles et des très longues, mais il y a aussi.
Mais
des...
on reste pas trop au soleil parce qu'il est dangereux.
Exactement.
Ici.
Ouais. Donc tu peux pas te fais cramer méchamment. Hein.
Mais alors moi je vais t'orienter parce que tu m'avais parlé de très bons résultats que tu avais eu en changeant simplement le mode alimentaire.
Ouais.
Et au départ, c'était pas vraiment la première chose à laquelle tu as pensé à faire changer. Et comment là aussi c'est comment tu en es venu à.
Bah.
À changer le régime alimentaire pour guérir.
Guérir, choses pour les
chiens. Améliorer.
Voilà, exactement. Tu as des troubles intestinaux qui sont dysfonctionnels et personne n'a vraiment trouvé. Même moi, hein, je ne dis pas, je ne suis pas à 100%, mais tu arrives à. Ces troubles fonctionnels créent pas mal de problèmes parce que ça te fait mal, t'es tout ballonné, tu as des problèmes, tu changes. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails parce que si on va dans ce. Bon, c'est pas la joie.
C'est pas gay.
C'est pas gay. Et en fait, en changeant en fonction des analyses ce que tu manges, tu peux en fait réhabiliter une flore intestinale qui s'améliore. Donc c'est pas mal. Et c'est très gratifiant parce que tu as aussi un impact
sur
le psychique, sur l'immunité. Dans l'intestin, tout est interconnecté. Tout à fait.
Donc manger des fruits de mer, c'est ça que tu dis?
Non,
les moules
et
puis les huîtres, c'est le mieux?
Ouais, les huîtres et les moules.
moules et des huîtres.
Ah, les
avec
moules.
Des frites.
On va manger des moules.
Ah, bah, les frites, je sais pas, mais les moules, oui.
On va aller acheter des moules pour un de ces jours.
Ouais, non, bah, ouais, faut, et pas tout le monde. Alors, c'est pareil, pas tout le monde a des problèmes digestifs, pas tout le monde a des problèmes avec le zinc, pas tout le monde a des problèmes de vitamine D. C'est des choses, tu vois, après, faut évaluer.
La vitamine D, par exemple, comment on voit qu'on a un problème de vitamine D? Bah, juste qu'on est un peu endormi et qu'on a envie de rien faire.
Bah, hein, c'est ça, c'est surtout de l'énergie. T'as un peu mou. Mais c'est, ça peut être juste parce que t'as une vie très, 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 très,
moi, ce qui m'a frappé en venant ici en Nouvelle-Zélande, c'est le nombre d'intolérances au gluten ou machin, au truc. Et en France, enfin, c'est
beaucoup moins. On en entendait moins parler. Hein.
Est-ce que c'est parce qu'on en parle moins ou est-ce qu'ici il y a un truc qu'on mange? Enfin,
alors, en France, on a été protégé de la façon dont on faisait le pain parce qu'il y a une tradition française qui veut, ou je sais pas si chez les Belges c'est pareil, où le boulanger il prend sa pâte, il prend 3 ou 4 différentes céréales, 3 ou 4 différents blés, il les assemble, oui, il fait sa pâte, il a un machin.
Des différents levains aussi, il a des différents levains.
Hein. Il laisse reposer sa pâte et une fois qu'il a reposé sa pâte, il la cuit. Mais ici, il y a un seul type de céréales. Ils te la foutent dans le four après une heure ou deux de la laisser reposer avec un ferment de basse qualité. Tu manges un truc qui n'est pas forcément génial.
Bah, donc, c'est surtout le pain blanc, le pain demi-blanc, c'était la base. Maintenant, ils ont beaucoup de pain. Mais il y a 15 ans, il n'y avait que du pain demi-blanc. Hein. Mm-hmm. Il n'y avait que ça. Hein. Mm-hmm.
Mais tu es fait de ce que tu manges. Donc, si la qualité de ce que tu manges n'est pas bonne, tu ne faut pas t'attendre à ce que ton corps l'accepte et en plus que tu te sentes en pleine forme. Ça, c'est un truc qui est vraiment très important. La prévention passe par la qualité de ce que tu manges. Je suis pas 100% allé manger tous organiques, mais si, je le suis parce que tu te retrouves avec des situations où, bah ouais, t'as les sols qui sont aspergés, t'as les fruits qui sont aspergés, tu te retrouves avec des trucs qui sont saturés, bah, voilà. Faut faire attention. Hein. Et les Français, là, ils ont sorti une étude il n'y a pas longtemps. Si vous googlez 70 000, c'est le nombre de personnes sur 7 ans manger organique, bio, et vous verrez ce qu'ils disent par rapport aux conséquences qu'il y a sur la santé. Il y a moins de cancers chez les gens qui mangent 50% bio. Et tout de suite, les Américains sont sortis dessus en disant...
Ça inclut le vin?
Ça inclut le vin, désolé.
Il y a du vin organique
aussi. Il y a du vin organique. Mais
vin, ça protège de tas de choses.
C'est pour ça.
Et tu disais, les Américains ont...
Mais tout de suite, ils ont fait une publication comme quoi on ne pouvait pas faire de lien de causalité.
Ah.
Ils ont tout de suite dit, il n'y a pas de preuve. Mais en fait, l'étude est très intelligemment faite en disant, bah non, on ne dit pas que c'est ci ou ça, mais ceux qui ne mangent que 50% de l'alimentation est bio, eh ben, ils ont moins de cancer. Voilà ce qu'on dit. Alors, qui est responsable? Pourquoi? Quels sont les faits? On constate. Donc, et c'est vraiment important parce qu'on est fait de ce qu'on mange. Donc, si vous mangez quelque chose qui n'est pas bien fait, vous n'allez pas être chouette.
Une bonne graisse de canard.
Parce que, moi, par exemple, j'ai un peu de... Dans les médias anglo-saxons, je n'ai pas vraiment regardé les médias français. Depuis 2-3 ans, ça y est, on va tous avoir le cancer si on est européen, oui, parce qu'on mange de la cochonaille. Toutes les viandes fumées, salées, machin, c'est cancer. Je dis, mais attends, les Corses, parce que tout le monde dit, les Méditerranéens vivent jusqu'à 100 ans parce qu'ils boivent de l'huile d'olive. Je fais, attends, en Grèce, en Italie, en Corse, il y a des saucissons à mort. Je suis désolé, mais ils mangent que de ça. Ils mangent du sanglier, du porc. Ouais. Ils mangent que ils mangent beaucoup de viande salée.
C'est comme le pain.
Et ces mecs-là, ils vivent quand même 100 ans. Donc qu'on me dise, ah oui, mais je suis en Nouvelle-Zélande, donc je vais mourir du cancer parce que je mange du saucisson néo-zélandais. Bon, il est moins bien, mais.
Mais
je me dis, c'est un peu bizarre quand même qu'on dise, aux États-Unis, tu vas mourir du cancer si tu manges du saucisson, mais en France, peut-être pas.
Bah, là, t'as raison, parce que l'environnement du pays détermine les pathologies, enfin les maladies que tu vas avoir. Et tu n'es pas exposé aux mêmes choses, mais c'est quand même assez globalisé. Et tu as raison. Maintenant, il y a même des études qui disent que lait est cancérigène. Après, tu as des études qui disent que.
Mais l'autre chose.
T'es un peu paumé, hein. Même en tant que médecin généraliste, je vais pas te dire que j'ai la science infuse.
Ouais, parce que ils peuvent te prouver que tout te donne le cancer maintenant. Donc,
Exactement. Mais on a, par contre, ça, c'est un fait réel. C'est qu'il y a une augmentation majeure des taux de cancer à travers le monde. Et ça, c'est vrai. Mais pour moi, on a l'étude là avec les Français. Français avait fait sur les 70 000 personnes pendant 7 ans, qui te disent « Ah, ben, peut-être que manger bio, ça pourrait être aidé. »
Mais il y a aussi l'augmentation du taux de dépistage.
Ouais, aussi. Mais on vit plus longtemps.
On vit plus longtemps, donc on a plus de cancers à 70 ans, j'imagine.
Oui, mais c'est aussi plus jeune hein, aussi. Il y a des cancers plus jeunes. Hein, là, les leucémies, les trucs comme ça, ils sont très, très durs pour les familles. Là, on en voit de partout. Donc, on a aussi des choses ici qui ne sont pas totalement élucidées. Je pense que les études épidémiologiques devraient être faites, mais qui je suis pour parler comme ça, mais bon, il faut vraiment faire attention parce qu'il n'y a pas. Il y a cette étude-là qui est sortie, ils sont sautés dessus. Bon, voilà. Faites attention à ce que vous mangez.
Mais est-ce que les statistiques ne sont pas un peu faussées? Parce que jusque dans les années 1950, mortalité infantile mondiale, hein, donc la France inclus, machin, c'était très fort. Hein, les bébés de 0 à 4 ans mouraient une fois sur deux. Je rigole, pas autant que ça, mais presque. Donc mortalité infantile en bas âge était énorme. Et puis bon, les antibiotiques, machin, tout ça. Maintenant, en Europe, un bébé sur 10 000 ne survit pas, mais les autres 9 999 survivent. Ouais. En Afrique, en Asie du Sud-Est, c'est un peu encore différent. Mais donc, je me dis que ces bébés qui auraient pu avoir le cancer à 40, 50, 60 ans, 70 ans, étaient déjà morts. Tu vois ce que je veux dire? Donc, statistiquement, c'était peut-être un peu faussé, mais maintenant, comme tous les bébés survivent très bien, je me dis, on se tape plus de cancer à 20 ans, 30 ans, 50 ans, parce que, on est plus à survivre le 0 à 5 ans. Est-ce que non ou pas? Je suis en train de jouer avec les statistiques, quoi.
Je suis un peu, circonspect, on va dire. Parce que le problème, c'est que l'environnement dans lequel on a évolué, dans lequel on évolue, a beaucoup changé en 50 ans.
Il y a plus de voitures.
Il y a plus de plastique, il y a plus de pesticides, il y a plus de beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Et en toute bonne foi, la plupart des gens, en toute bonne foi, ce plastique-là, ils ont découvert que certains plastiques avec des effets hormonaux monstrueux, notamment chez les enfants. Bon, ça avant, on ne le savait pas.
Mais c'est trop tard.
mais c'est pas. Comment dire? Bon, et puis on guérit la plupart des cancers aussi. Oui. Donc c'est pas non plus on va avoir le cancer, on va mourir. Non, vous avez un cancer, et la plupart d'entre vous.
Si c'est pris un temps et le bon cancer.
Le dépistage et tout ça. Donc non. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et même moi, je peux vous dire que je suis pas entièrement clair sur certaines idées, notamment celle-là, mais je sais qu'il y a une augmentation du nombre de cancers et que ça peut être dû à la longévité.
Chez les plus jeunes, c'est ça?
Chez les plus jeunes aussi. Ouais. Ça peut être dû à la longévité, ça peut être dû à des maladies qui n'existaient pas avant ou qui n'étaient pas détectées, ou ça peut être dû à des conditions environnementales qui sont nouvelles et qu'on n'avait pas avant.
Beaucoup de facteurs. Ouais.
Exactement. Et c'est pas que je veux faire de langue de bois, c'est que je dis que c'est un sujet qui est difficile et que je ne suis pas celui le plus mieux placé pour dire ça c'est ci, ça c'est ça. Mais la seule chose que je peux vous dire, si vous mangez sainement, vous aurez un corps sain parce que les qualités de ce que vous mangez sera bonne et vous êtes fait de ce que vous mangez. Ça, c'est un truc qui est majeur.
Et donc, il vaut mieux manger local et bio que international. Parce que moi, j'ai été très étonnée parce qu'ils ont beaucoup parlé en France des accords du CETA. Avec cette histoire du Canada qui n'ont pas les mêmes normes qu'en France, ouais. Où c'est beaucoup plus. Restrictif. Et c'est là où j'ai du mal à comprendre, parce qu'on dit que.
Ah, c'est sur les blés qui sont empoisonnés au Canada,
oui,
pour qu'ils mûrissent plus vite.
Des choses de Chine, ouais, qui passent par le Canada et qui peuvent passer en Europe. Et donc là, on nous dit. J'ai mon micro.
Manger vert.
C'est juste le casque, tu peux continuer à parler.
Il faut réduire la taxe carbone et machin. Et donc là, on...
T'es en train de chercher ton tuyau. Parle.
Ouais, Donc, on se focalise pas sur le local et le bio, mais l'international s'amplifie et on sait plus ce qu'on mange, en fait. Et c'est ça, j'essaye de lire les étiquettes.
Bah, c'est un peu comme la viande de cheval qui venait d'Ukraine, de Pologne, machin, il y a 10 ans. Le reste de l'Europe s'éveille et les Français s'en foutaient parce qu'on mange du cheval quand même. En France, il n'y a plus beaucoup de boucheries chevalines, mais tout d'un coup, la Hollande et puis les Anglais, les Allemands font on a mangé des chevaux. Et je fais, moi je suis normand, cheval, on en mange tout le temps, mais tout le temps, une fois par mois, je sais pas quoi, c'est pas un problème, un bon steak de cheval c'est très bon, mais du fait qu'il y avait un peu de cheval dans le Findus, dans les trucs congelés, ça y est, la moitié de l'Europe était en révolution parce que la viande ne venait pas de chez Findus France, ça venait de chez Findus Pologne ou Findus Ukraine. Est-ce que c'est ça dont on parle
à savoir ce qu'on mange. C'est pour la viande, c'est ça qui me pose un peu problème parce que...
De toute façon, ici, en Nouvelle-Zélande, on dépend aussi d'un marché internationalisé. Hein, donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'en sais. Arrête ce côté-là. Il faut, c'est pour ça que les gens doivent s'éduquer eux-mêmes. Ça, c'est très important. C'est des choses, tout le monde, toute l'information est disponible. Si tu vas regarder, théoriquement, tu as obligation d'avoir l'information sur ce que tu manges. Si tu n'as pas l'information, c'est-à-dire qu'il y a eu de tromperie quelque part. Mais je reviens toujours à la même chose. Manger sainement, c'est manger des choses simples, bonnes, et vous saurez. Vous
aurez malheureusement, c'est pas vrai. Par exemple, sur les poulets en supermarché ici, ils piquent leur poulet, ok. Donc ils font gonfler la chair avec de l'eau salée. Ce qui existe aussi en Europe, hein, c'est pas que c'est mondial.
Ben en France, mais ils injectaient des oestrogènes dans les coups. T'avais des agriculteurs avec des
avec des nichons, oui. Mais c'est très la Bolivie avait des enfants avec de 5 ans avec des seins mâles. Des enfants mâles. Avec, bon, parce que c'était l'un des plus gros producteurs, c'était il y a 25-30 ans, c'était les plus gros. Mais oui, mais tu sais pas parce qu'ils te disent c'est pas sur le paquet, c'est marqué poulet. Ils mettent pas que.
Il y a le free range, il y a le bio,
Ils ont injecté avec un liquide au nitrate et au machin et au truc.
Il faut pas être naïf, il faut se renseigner. Et il y a des façons de. Je pense pas que.
Mais là, encore une fois, c'est toujours la même chose. Ce sont les classes les plus pauvres qui s'en prennent plein la figure.
Tout à fait.
Parce que tu prends pas le temps de lire ou tu comprends pas.
Et puis il faut avancer cet enseignement aussi.
Mais même. Donc, tu as fait des études deux fois. Et tout, même toi, tu dis, c'est pas que tu comprends pas, mais le problème, c'est que maintenant, il y a tout, ils sont en envers. C'est-à-dire que si je mange trop de cochons, je vais mourir, mais si j'en mange pas assez, je vais mourir
ça
aussi.
Ça dépend de quel cochon.
Ce que je veux dire, c'est que ça devient difficile de savoir, quoi faire, en fait, quelque part.
C'est ça.
Oui, mais tu vas pas te dire, non, on peut plus rien manger. Non, mais, c'est vrai.
On va mourir.
Tu peux te trouver un bon sens ou un.
Non,
mais bon
puis il y a des choses qu'on découvre. Par exemple, je vais chez mon dentiste. Et donc, qui est un mec très sympa. Ça fait 20 ans que je vais chez le même
c'est
dentiste.
C'est celui qui est chirurgien facial.
Ex-chirurgien facial de la guerre du Kosovo. Et lui, il y a 2 ans, m'annonce, parce qu'il sait que je suis français, évidemment, me dit, tu sais, quand tu manges du fromage, faut pas manger de fromage blanc, genre camembert brie, le soir. Parce que ta brosse à dents n'enlève pas la couche de camembert. Alors je lui dis, mais de quoi tu racontes? Je suis normand, je mange du camembert à midi, à 4h ou à minuit. Il dit, mais parce qu'il te faut 2, 3, 4 heures pour que ta salive, ta langue, tout ça enlève. Il dit, si tu manges du gruyère, c'est bon, parce que c'est un fromage dur, du gouda, tout ça, il va pas coller à tes dents. Mais le brie et le camembert, maintenant les études prouvent que ça reste collé pendant très longtemps dans la bouche. Et que même la brosse à dents n'enlève pas. Et en fait, il dit, ça te pourrit les dents et comme le lait c'est acidique aussi donc maintenant les études modernes tu peux pas manger de camembert tard le soir.
Mais ça fait partie de l'éducation.
Je savais pas, je suis normand et j'ai mangé du camembert quand je voulais moi.
Bah regarde au début des années 1920, ils mettaient du vin dans les biberons des bébés en France.
Oui, dans les années 50-60.
On avait de la bière de table à l'école.
C'est de l'éducation ça. Ça fait partie des choses qui vont passer et des trucs qui étaient maintenant on accepte.
Ouais. Après en termes d'éducation, je pense qu'en France, on est peut-être mieux loti avec les cantines qu'ici en Nouvelle-Zélande. Où c'est à chacun de faire sa lunchbox.
Côté, ici, tu sais ce que tu mets dans ta lunchbox.
Ouais. Ou pas.
On a que 4 minutes ou 3 minutes.
Ça va déjà aller vite.
Ça va vite. Une interview de docteur médecin généraliste holistique, ça va vite.
Oui, ça va très vite.
Mais c'est très bien, il va falloir venir. Tu pourrais faire une spéciale antenne. On avait un sexologue pendant 3-4 ans qui est retourné au Canada, malheureusement. Ah. Et donc, docteur, le seul docteur sexologue de Nouvelle-Zélande qui est malheureusement parti. On faisait des émissions spéciales et tu serais très bienvenu à faire des émissions spéciales. Spéciale médecine holistique une fois gentil. De temps en temps.
C'est gentil.
C'était passionnant.
Ouais.
On a plein de questions en fait, c'est ça qu'on veut dire.
On a encore 2 minutes.
On a encore 2 minutes. On se passe une musique d'adieu ou on a une dernière question.
Une autre question. Non.
Sinon, on dit merci à Olivier d'être passé.
Oui,
c'était
merci,
très
Olivier.
Sympa.
Ouais,
merci de m'avoir reçu.
Et donc, si vous voulez voir Olivier parler français en même temps d'être soigné holistiquement, on dit holistiquement en français.
Oui. Bon, je sais pas ce qu'on dit.
Totalement.
Total.
Et allez voir Olivier sur Ponsonby, donc pas très loin d'un bar francophone.
À côté du Flos.
Merci Else de nous avoir ramené Olivier, c'est d'être revenu à l'antenne. Monsieur Steph l'animation, la technique.
Voilà.
La semaine prochaine, je sais pas qui c'est, mais c'est pas grave.
C'est quelqu'un d'autre.
Voilà.
On retrouvera l'émission
sur Mixcloud.
Pour la dernière chanson, on met notre ADN ou notre tout ADN. Pas
ça. Oui, c'est la médecine. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Notre ADN.
Donc un groupe belge.
Delta, un groupe belge.
C'est un groupe belge.
Ouais, je crois.
C'est formidable. Allez, au revoir tout le monde alors.
Au revoir tout le monde. Bonne semaine. Ciao.
Jamais dans tes veines. Sans totem ni drapeau, notre ADN, c'est marqué dans tes yeux, écrit dans ma chair, sans jouer avec le feu. Moi je l'aime notre ADN. Toi et moi, on s'était promis de grandes choses. Au final, on n'a pas vécu grand chose. De juste milieu, les mêmes sans être pareils. Notre ADN. Toi et moi, on aimerait bien être un peu spécial. Pas trop quand même, faudrait pas faire marginal. Le juste milieu, les mêmes sans être idem. Dans notre ADN. Toujours chercher mieux, mais trouver ce que l'on est. Gravir sur ma route, jamais dans tes veines. Sans totem ni drapeau. Notre ADN, c'est marqué dans tes yeux, écrit dans ma chair, sans jouer avec le feu. Moi je l'aime notre ADN.
On s'était juré de plus faire dans le sentimental.